Nos mémoires populaires. Des histoires personnelles qui font la grande histoire. Un podcast réalisé par Alexandra Josse. Une guerre d'Algérie. Témoignage de Georges Garrier. Les chemins de la mémoire.
2010, moi j'ai adhéré.
2010, oui. Ok. La 4ACG, rappelez-moi.
2004, le 8 janvier 2004.
Comment vous découvrez déjà cette association?
À l'époque, j'étais maire d'ici. J'ai fait 3 mandats de maire. Hein. On avait des logements communaux, qui servaient surtout l'été pour les gens qui venaient passer les vacances. Quoi. Et je reçois une demande d'une dame qui travaillait pour le conseil général du département et qui cherchait un logement parce qu'elle faisait des recherches sur les monuments anciens, trucs comme ça, pour le compte du conseil général. Elle cherchait un logement dans le coin, là. Et moi, je dis, ben moi, j'en ai un. Donc, on loge cette jeune dame comme ça. Donc, on discute de temps en temps. Puis un beau jour, elle me dit, elle parle de son père. Ah, mon père, il a fait la guerre d'Algérie. Ah bon? Alors c'est la première fois où on me parlait de quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, hein, parce que je suis sûr que ça a été le blackout. Hein. Donc Eva, donc cette dame-là, elle me dit, mais mon père, il a fait la guerre d'Algérie, et puis il fait partie d'une association. Du coup, j'ai pris contact avec son père, qui m'a expliqué qu'il y avait une 4ACG, et que c'était des gens du Tarn qui avaient mis ça aussi sec, je prends ma bagnole, et puis je vois Rémi.
Eh oui.
Et ça a commencé comme ça.
Rémi Serre, voilà. L'un des fondateurs.
Voilà.
Il n'y avait pas de groupement d'anciens combattants comme pour la Seconde Guerre mondiale.
Bon, les anciens combattants, ça a toujours existé. Hein, les anciens,
oui.
L'association des anciens combattants et victimes de guerre, c'est un gros truc national. Mmh. J'ai jamais voulu adhérer à ce truc-là, parce que pour moi... L'ancien combattant qui sort une fois par an avec ses médailles, son drapeau, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien qu'on parle de l'armée, qu'on parle de la guerre, qu'on parle de tout ça, mais à condition d'analyser, de réfléchir un peu. Pas pour faire un gueuleton, ni pour sortir mes médailles. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je n'ai jamais cherché à faire partie de la FNACA. La FNACA, la Fédération d'Anciens Combattants.
Des Anciens Combattants d'Algérie, ouais. Et la 4ACG, bah, quand vous découvrez cet assaut, déjà, quelle est votre réaction? Parce qu'ils ont quand même une démarche un peu particulière.
C'est très particulier. Donc, pour en savoir davantage, je suis allé voir Rémi, qui m'a expliqué qu'avec les 3 autres, ce qu'ils avaient fait, je crois que c'est après un marché de bestiaux, trucs comme ça, où ils avaient discuté entre eux, là, en buvant l'apéro, de cette carte d'anciens combattants qu'ils venaient de recevoir. Donc, il m'a expliqué comment ça avait démarré. Et que leur premier réflexe, ça avait été de dire, non, cet argent, c'est de l'argent taché de sang, pas forcément parce qu'on a fait, mais parce qu'on a vu. Et moi, je trouve qu'ils ont eu une réaction formidable, c'est de dire oui, on l'accepte, mais on n'en profite pas. Ça m'a séduit, ça rentrait tout à fait dans les intentions, donc j'ai adhéré à la 4ACG.
Donc, c'était une pension de guerre que vous receviez, que vous recevez encore.
Oui, oui, la carte de combattant, elle est arrivée.
À quel âge, du coup, vous recevez ça?
Alors, la carte de combattant, elle a été mise en place en 2000, voilà. J'étais allé voir aussi Treilloux,
oui,
qui est décédé.
Georges Treilloux, oui.
Leur point de vue, enfin, leur motivation m'a plu énormément, à tous les deux. Et donc, je dis, j'adhère et je vous aide, je peux faire quelque chose. Il me dit, ben, tu as qu'à être le coordonnateur en Midi-Pyrénées. Les régions, c'était Midi-Pyrénées. Donc, j'ai aussitôt essayé de travailler pour la 4ACG, donc recherche de lycée pour en parler aux étudiants, aux élèves. J'ai cherché plusieurs fois à Saint-Girons, j'ai réussi un lycée une fois, et ailleurs, rien, dans l'Ariège. Par contre, J'avais fait connaissance d'un Toulousain qui faisait à l'époque partie du bureau du CA, qui me dit, ben écoute, moi j'ai un ami, un grand ami, qui est prof d'histoire à Moissac. Si tu veux, on va aller à Moissac. Et ça a commencé comme ça. Mon premier truc, ça a été à Moissac. Et après, j'en ai fait d'autres.
Alors ça, c'est l'aspect transmission. Oui. Mais d'abord, il y a eu peut-être un moment où vous avez, vous, libéré. Enfin, vous avez parlé aussi, puisque vous disiez que toutes ces années de blackout, et là, tout d'un coup, la rencontre avec la 4ACG. Comment ça se passe?
J'ai participé à ces fameuses visites dans les lycées. Mais à force d'en parler comme ça, moi, jusqu'à présent, ce que je possédais bien, c'était ce que j'avais vu, ce que j'avais fait, ce que j'avais entendu là-bas, pendant la guerre. Ça, pas de problème. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut aller plus loin. Il faut que tu réfléchisses sur pourquoi il y a eu une guerre. Enfin, j'avais déjà des idées vraies, mais pas finement analysées. Quand j'étais à l'école normale de Bouzaria, quand avec les copains kabyles, là, on venait de faire un match de foot comme ça, où on se chahutait et que combien de fois ils m'ont dit « Mais toi, tu sais, le français, un jour ou l'autre, on te foutra à la mer. » En plaisantant. Ça m'est revenu. Donc, je me suis dit, il faut que tu creuses un peu ça. Et je me suis recherché un peu, 1830, même un peu avant, Abdelkader, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, ben, il faut que tu écrives quelque chose. Alors écrire quelque chose, mettre tout ça dans un bouquin. Non, parce que c'est pas une histoire que je raconte, c'est des moments. Et ces trucs-là, tu vas en faire un texte pour chaque sujet. Puis je me suis dit, ben, tu vas faire des poèmes. Et c'est là que j'ai commencé à démarrer un petit fascicule, je vais en avoir là, je crois, qui est avant mon recueil. Ah oui, voilà. J'ai fait ça. Ça, je l'ai fait, mais d'un jet de plume. Hein. C'est parti, tac, 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 tac. Et je me suis dit, ça, il faut essayer de le faire accepter par l'éducation nationale. Je n'ai pas réussi. Mais au moins, en distribuer. Et pendant une époque, là, avant le Covid, là, j'en avais, je ne sais pas, peut-être 500, on avait fait tirer. Partout où il y avait une manif sur la paix ou trucs comme ça, moi j'ai distribué mes trucs. Là, c'est mes faits de guerre. Et comme je vous dis, il faut savoir pourquoi il y a eu une guerre, et puis maintenant qu'elle est finie, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça que j'ai retranscrit dans mon recueil. Il y a trois parties. Donc il y avait la guerre, avant, après. Après avoir fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Première partie, avant la guerre, le poème avant la guerre, qui explique la colonisation, l'ingénérat, enfin, etc. La deuxième partie, c'est ce qui est là, c'est-à-dire mes faits de guerre. Et la troisième partie, la 4ACG.
Et est-ce que vous seriez d'accord pour nous en lire un ou deux?
Celui qui me tient le plus à cœur, c'est... Et puis, je tenais à faire quelque chose, hein, parce que, comme je vous ai dit, je suis né à Saint-Ain. Donc, tout pour moi part de là. Dans un petit village, au pied de la montagne, de l'arrière profonde, au bout de la vallée, avant que les ronciers et la forêt ne gagnent, aucun des jeunes ici ne voulait s'en aller. De Bullard à Uretz et jusqu'au Bentayou, les minerais de fer, de plomb, de zinc et autres, qui selon vous, peut-être ne sont que des cailloux, faisaient vivre un pays. Eh bien, c'était le nôtre. De nombreux émigrés travaillaient à la mine. Ils venaient de partout et l'un d'eux de Serbie. Sa femme, courageuse, était à la cantine. Une baraque en bois abritait ses petits. Le plus jeune de tous, Edem, de son prénom, lui faisait voir les pierres et était, c'est certain, reconnu alentour pour le plus polisson. Mais jamais le dernier pour aider les copains. À 20 ans, quand l'État lui offre le voyage pour l'Algérie en sang, il quitte le pays et comme des milliers de jeunes de son âge, il rêve de palmiers, de figues de Barbarie. Son chef de compagnie l'affecte à la conduite des engins de transport. Lui ne cherche qu'à plaire. Ses supérieurs, dès lors, s'aperçoivent de suite que ce soldat révèle un courage exemplaire. Ah, c'est dur pour moi. Edem dort maintenant au petit cimetière. Et son nom est gravé au monument aux morts. Il aurait bien voulu toute sa vie entière rester dans son village, se dissiper encore. Une balle perdue, belle image trompeuse, a mis fin à sa vie, à lui, si dynamique. Le frappant en plein front, elle l'a tué, la gueuse. Et dort en paix, Edem, fils d'Azambegovic. Sa mission terminée et soulagée, en somme, de rentrer au complet dans le casernement, la section, composée d'une vingtaine d'hommes, ramenait ce jour-là un notable important. De sa haute stature, dans sa djellaba blanche, il dominait le groupe, bien prêt à faire front. Deux soldats l'accrochant chacun par une manche se sont vus repousser du fait de cet affront. Renseignements tirés d'autres interrogatoires, il était respecté de la population. Du respect que l'on doit aux élites notoires et du rang supposé dans la Révolution. Il fallait dans ce cas jouer la partie fine. Savoir qui se cachait sous ses cheveux blancs. Car l'ancien baroudeur portait sur sa poitrine une croix décernée aux anciens combattants. Ses réponses cinglantes aux questions qui accablent finissent d'agacer ceux qui l'interrogeaient, qui décident, unanimes, après un tour de table, de s'en débarrasser, mettant fin au projet. Le projet, c'était bien sûr de le confondre, car les sources étaient sûres, mais le faire avouer qu'il était Fellaga, plutôt que de répondre qu'il était algérien, c'était trop demandé. Il était reparti, suivi d'une escouade, avec un sergent-chef pris pour le protéger, et qui, à son retour, inutile bravade, raconta que ce soir, il s'était bien marré. Le lendemain matin, le lieutenant m'appelle, me disant qu'au village, on signale un malheur, que le vieux était mort, tué par des rebelles. Il m'ordonne d'aller lui rendre les honneurs. Dans sa djellaba blanche, toute tachée de sang, il gissait sur le dos dans la poussière grise. Son village de marbre était doux, et pourtant, ses mains serraient sa vie que la mort avait prise. Des femmes tout autour sanglotaient en silence, et les soldats émus, debout, au garde à vous, ont présenté les armes, et quoi que l'on en pense, ont respecté cet homme qui était de chez nous. De ce jour-là encore, je garde un goût amer, car en réalité, ce sergent-chef infâme l'avait exécuté puisqu'on était en guerre. Dieu seul connaît depuis la couleur de son âme. On m'a fait jouer là une comédie extraordinaire. On avait un prisonnier, un bonhomme qui avait de la classe. Impossible de lui faire dire qu'il était fait de la garde, parce que c'était un responsable, probablement. Donc, on le ramène chez lui, au village un petit peu plus bas. Et ce sergent-chef en question, qui avait fait l'Indochine, je l'avais dans ma section, c'était un tortionnaire. Difficile à maîtriser. Et donc ce gars-là raccompagne le prisonnier, il le ramène chez lui, là-bas il le flingue. Et moi le lendemain, on me dit, c'est les Fellaghas qui l'ont tué, il faut aller lui présenter les armes.
Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Comédie macabre, votre oui. poème. Et ouais, alors, il y a l'Indochine juste avant, la guerre d'Algérie. Et est-ce que on peut dire qu'il y en avait certains qui avaient gardé de l'amertume d'avoir perdu
On voyait très nettement, dans les sous-officiers, hein, on voyait très nettement ceux qui avaient fait l'Indochine.
Hein. C'était du coup plutôt des militaires de carrière ?
Il n'y avait que des militaires de carrière, là.
Ouais.
Alors, ces militaires de carrière, donc, c'était leur métier. Ils avaient fait toute l'Indochine avec tout ce que ça pouvait comporter, donc ils avaient appris beaucoup de choses. Ils étaient capables de faire avouer quelqu'un qui n'avait rien fait, de le faire avouer qu'il avait fait quelque chose. Et ces gens-là, ils étaient vite repérés, hein, parce que devant, physiquement, par le reste, ils jouaient les caïds. Quand ils racontaient leur histoire, hein, c'était l'histoire d'Indochine, quand ils foutaient le feu dans les baraques avec les gens dedans, c'était quelque chose de c'était comme ça, hein, c'était leur métier, et ils le voyaient comme ça. Donc moi j'en avais un à la section. Lui je me méfiais toujours, quand on sortait de nuit ou truc comme ça, je lui demandais toujours de passer devant, je ne voulais jamais qu'il soit derrière moi. Hein. Ah ouais, capable de... C'était des bêtes à tuer, quoi. Je l'ai vu, on avait interrogé un gars qui n'avait pas trop ses papiers, enfin bref, donc on le rentre au camp, comme ça, et lui, il s'en occupe. Il l'interrogeait, il faisait, comme il dit, son boulot, et puis moi, j'arrive, je vois. Il lui avait fait, lui faire boire, il avait un ventre énorme comme ça, et il lui sautait sur le ventre.
Ah. Ouais, ouais. Des fous de guerre, quoi.
Des fous de guerre, des... oui. Ben pour eux, il était payé pour ça, voilà.
Et donc ces mecs-là, parce que l'Indochine, c'était combien de temps avant ? Ils avaient enchaîné.
Juste avant, 54 aussi, hein, ouais, 53, 53.
Ils étaient passés d'une guerre à l'autre, quoi.
Ils étaient passés d'une guerre à l'autre, et comme la première, ils l'avaient perdu, ils étaient fous. Enfin, c'était pas fait pour arranger les choses, hein. Oui, ouais. Ah, mais là, celui-là...
Bon, vous, on comprend que vous en méfiez, mais est-ce qu'ils pouvaient avoir tendance à entraîner ou à pousser leurs appelés à faire des choses ?
Alors, il y a quelques appelés qui jouent les caïds, hein. Mais la grosse, enfin, ceux que j'avais, calme, et surtout jamais prêt à partir le premier ou à... Non. Bon, des viols dans ma section, j'en ai jamais vu, il n'y en a jamais eu. Hein. Je sais qu'il y en a eu, mais aucun de miennes. Par contre, il y en a un à qui j'ai demandé de faire demi-tour, et de repartir tout seul, il avait piqué une pile de disques. Les disques
45 jours.
Ouais. Il avait piqué ça. J'ai dit, toi, tu reviens le ramener. C'est léger, quoi.
Ce témoignage de Georges Garrier a été enregistré au printemps 2024 à Arout, en Ariège. Un podcast réalisé par Alexandra Josse. Ce podcast est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.